Il est 10h30. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Du coup, voilà. Donc, moi, je suis venu vous parler mammouthologie. Donc, si vous êtes venu entendre parler d'agilité, vous êtes aussi gouré de salle. Mais on va essayer quand même d'en dire un mot. Donc, merci. Je reprends ce qu'a dit le président. Merci aux partenaires qui permettent que cet événement ait lieu. Et moi, je suis extrêmement touché parce que, du coup, les bienfaiteurs, c'est le service public, voilà. Et étant aussi du service public, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir que du coup, ça soit le service public qui permette à ce que cet événement ait lieu, même si c'est pour partie l'éducation nationale et que du coup, éducation nationale et mammouth, ça rappelle peut-être des choses aux plus anciens d'entre vous. Voilà. Donc moi, je m'appelle Fabrice Bloch. Donc je suis de l'INSEE. L'Institut national de la statistique et des études économiques, où je suis aujourd'hui le chef du Centre Agile et je suis aussi porteur de la transformation vers le DevOps dont je ne suis pas du tout venu vous parler aujourd'hui. Je suis un tout petit peu connu sur les réseaux sociaux sous le nom d'agilitateur public. J'habite Paris, je me suis levé tôt. Et j'ai la chance d'être président de deux associations, une association qui s'appelle Agile France, et une autre association qui s'appelle Frugagile, où on fait des trucs de fou avec zéro moyen. Voilà. Alors, justement, j'ai la chance d'aller à des confs, comme vous. J'ai la chance d'organiser des confs. J'ai la chance d'entendre un certain nombre de personnes me parler de leur transformation. En ce moment, tout le monde fait sa transformation. Alors, à un moment, c'était la transformation agile. On a eu beaucoup la transformation DevOps. En ce moment, c'est complètement has-been, il faut faire sa transformation en mode produit. Quand ce n'est pas la transformation en mode unfix pour les plus en avance d'entre nous. Et du coup, à chaque fois que j'entends parler de ces transformations, j'ai un peu l'impression d'entendre une très jolie histoire. J'ai l'impression d'entendre ça. Alors, j'ai un enfant qui a encore l'âge de les regarder, du coup, ça me parle. Mais en règle générale, c'est des gens qui ont lu deux ou trois bouquins, pour commencer celui de John Kotter sur la transformation, et qui ont compris que la première étape d'une transformation, il faut qu'il y ait un sponsor qui doit sentir ou créer l'urgence quand cette urgence n'est pas encore là. Alors ça, c'est l'urgence, hein, c'est pas le sponsor, je vous rassure. Alors le sponsor, c'est quelqu'un de toujours très important, hein, directeur, ils sont tous directeurs. Du coup, il peut pas tout faire. Voilà, il peut sponsoriser. Voilà. Du coup, il va nommer quelqu'un qui va porter la transfo, hein, c'est la deuxième partie, deuxième étape du modèle de John Kotter, un responsable de la transfo. Donc là, c'est moi sur la photo, j'ai un peu pris depuis, mais je suis en haut là, voilà. Et ce responsable de la transformation, qui peut lui non plus pas tout faire tout seul, va s'entourer d'une très sympathique équipe de projet pour une équipe de pilotage de la transformation. Donc c'est un petit peu comme ça, et donc c'est une chouette bande de copains finalement qui se réunissent dans une ambiance où tout le monde est aligné, bien entendu, et tout se passe toujours très très bien. Mais on ne peut pas s'en sortir tout seul, du coup on embauche les consultants, d'où ma question de tout à l'heure, est-ce qu'il y a des consultants dans la salle ? Alors les consultants, ils sont souvent vus comme ça, ils sont souvent vendus comme ça d'ailleurs aussi, par les susdits commerciaux, donc c'est assez rigolo. Alors nous, dans la fonction publique, les consultants, on en a plein, hein. Enfin, bon, ça s'est fait les titres des journaux, pour que j'insiste pas, mais des consultants, du coup, on en a. Du coup, le consultant et le sponsor donnent la vision et la stratégie. Là, on voit le responsable de la transfo, enfin le porteur, le mec opérationnel, là, qui déjà est un peu plus inquiet, dirons-nous, mais tout va bien. On sait que c'est un Disney, du coup, tout finit bien. Du coup, tout le monde suit le plan élaboré par le prestataire, en général, et la direction. Et là, je vous propose quand même de faire une petite pause. Plan de transformation agile. Dans la même phrase. Ceux qui ont pris la peine de lire le manifeste se disent que plan et agile dans la même phrase. Il y a quand même un petit truc qui gratte. Mais c'est pas grave. On a des sociétés de services qui vendent des plans de transformation agile et on a des gens pour les acheter. Voilà. Donc tout va bien. On est dans un monde libéral finalement. Vendeurs et acheteurs se rencontrent, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et donc du coup voilà, il n'y a plus qu'à suivre le plan, hein, puisque il n'y n'y a pas de bon plan qui ne se déroule sans accroc. Et tout finit bien, tous les KPI sont au vert, machin, tout ça. Alors, des présentations qui disent ça, moi, j'en ai vu quelques-unes. Et ça me fait penser à ce livre, qui est un livre extrêmement intéressant, sur les mythes de l'humanité, sur les histoires, sur les contes de fées, qui explique que finalement, toutes ces histoires, tous ces contes de fées, tous ces mythes, machin, tout ça, c'est toujours, 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 toujours la même histoire. Qui est raconté de façon différente, mais c'est toujours, toujours et toujours la même histoire qui se répète. Et du coup, moi, quand je vais dans ces confs, je me dis, encore cette même histoire de transformation qui suit ce schéma-là, et où finalement, on nous vend qu'une transformation, il suffit de suivre un plan décidé par un prestataire, décidé par un consultant. Il n'y a plus qu'à suivre le plan, et puis tout est simple. Et puis, on arrive à un résultat, et c'est chouette, c'est le feu d'artifice. Alors, j'ai quelques années de boutique, quand même, et c'est le genre d'histoire auquel, moi, j'arrive plus à croire. Donc, je me suis dit que moi aussi, j'allais raconter une histoire. Et donc, je suis venu vous parler de Grok et Plonk. Des Grok Porridge Hackers. Alors, j'ai quelques jeux de mots un peu... Donc, Grok et Plonk, qui vivent à la préhistoire. Alors, la préhistoire, c'est l'histoire, machin, tout ça. Enfin, c'est le moment, c'est à l'époque. Il n'y a pas de zoom. Il n'y a pas de Trello, il n'y a même pas de Jira, c'est pour vous dire. Ouais, je sais. Et même pas des petites capsules de café, machin, tout ça, qui éclairent la grotte, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, Grok et Plonk, ils ont un problème, c'est que cette tribu, elle se nourrit exclusivement, alors ça, c'est très difficile à dire, donc je m'entraîne, purée de grenouilles grises au chou. Si, essayez, vous allez voir, c'est très, très difficile. Alors, ça va bien 5 minutes, je vous laisse imaginer ce que peut être la purée de grenouilles grises au chou. Mais voilà. Et donc, du coup, ils ont un super projet, parce que à l'époque, tout ça, bon, vegan a assez peu pris. Ils vont aller à la chasse aux mammouths. Alors, du coup, c'est facile, hein, aller à la chasse aux mammouths. Il suffit de staffer, hein, c'est un terme cro-magnon qu'on n'utilise plus, bien sûr, de nos jours. Il suffit de staffer l'équipe adéquate, leur donner une vision, une cible, un peu de management, et hop, tout va bien. Hein, c'est ça la théorie, facile. On fait un truc, voilà. Malheureusement, comme ils vont le voir, tout ça, c'est. Ça se passe jamais comme prévu. Du coup, les quatre parties que nous allons voir, c'est que pour réaliser ça, d'abord, il faut un feu vert des sages de la tribu. Les sages de la tribu, on a besoin de leur feu vert pour pouvoir expérimenter une nouvelle truc. Ça aussi, c'est Cro-Magnon, bien sûr, de nos jours, ça n'existe plus. Il faut des ressources. Ça, c'est le sorcier de la tribu qui peut les donner. Donc, il faut aller plaider auprès du sorcier de la tribu. Il faut aller voir le chef de la tribu. Enfin, il faut occuper le chef de la tribu. Il faut toujours donner un rôle à un chef parce que sinon il s'ennuie et il va venir faire des trucs que vous n'avez pas envie qu'il fasse. Et puis, évidemment, il faut une équipe de chasseurs auto-organisés. Et comme on est quand même dans une conférence agile, on souhaite que cette équipe de chasseurs-cueilleurs, elle soit auto-organisée parce que c'est quand même ça qu'on aime. Alors, avant d'aller sur ces quatre parties, on peut s'interroger. Et si l'idée de faire la chasse aux mammouths, c'était un tout petit peu plus qu'un projet, mais une vraie transformation. Alors, c'est quoi la systémique? Alors, je vais pas être, je vais y aller je vais faire l'âge de pierre, hein, je vous rassure, je vais pas vous faire un cours de systémique. Déjà, parce que j'en serais bien incapable. Mais un système, faut qu'il y ait des éléments constitutifs. Ça, on l'a. La tribu. Ses membres. Ils forment, c'est les éléments constitutifs de notre système. Il y a une frontière. Eux, c'est pas nous. Du coup, on a la frontière. Ces éléments constitutifs, ils sont reliés entre eux par un réseau de relations. C'est en gros les règles de vie en commun au sein de cette tribu. Et puis, il y a des stocks de ressources qui circulent dans ces réseaux de relations. Donc, ça peut être tout bêtement des matériaux, de l'énergie, mais c'est aussi l'information, très important l'information. Ressources clés, pourrait-on dire. Et puis, un système, ça évolue grâce au flux, justement, de ces matériaux. Le troc, l'échange de services, l'échange d'informations, comme je disais, les décisions qu'on va prendre, et puis le feedback, finalement, qui va être fait suite aux boucles de rétroaction, et puis les ajustements volontaires qu'on va faire suite au feedback qu'on reçoit. C'est ça un système, finalement. C'est pas si compliqué que ça. Mais il faut avoir en tête, quand on fait une transformation, que la principale fonction d'un système, c'est sa propre conservation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Tout système préférera le connu insatisfaisant à l'inconnu, même s'il est meilleur. C'est un principe de base. quand on essaye de faire bouger un système, si on n'a pas ça en tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie qu'il va falloir qu'on mette, elle doit être extrêmement importante. Là, si on met que peu d'énergie, on va revenir au point d'équilibre précédent. Ça sert à rien. Peut-être qu'on va faire des petites expérimentations. Peut-être qu'on va faire des petites améliorations. Mais dès qu'on arrêtera de mettre l'énergie, dès que la personne qui porte, en règle générale, s'en va, on revient au point d'équilibre précédent. C'est normal. C'est parfaitement normal. Et si on veut changer le point d'équilibre, ben, il faut y mettre énormément, énormément d'énergie. Et ça, je reproche beaucoup à ceux qui disent qu'une transformation, c'est facile, de cacher ça. C'est-à-dire qu'une transformation, il faut énormément d'énergie, c'est douloureux, et on traverse forcément une période de crise. Croire qu'on peut faire l'économie de cette crise, c'est complètement illusoire. Alors, j'ai longtemps cherché quel terme me parlait le mieux. Alors, je suis de l'INSEE, hein, études économiques, donc quand je veux me la jouer un peu, je dis que c'est une théorie économique, ce qui est vrai, mais c'est aussi un truc que j'ai lu dans les bouquins de cuisine. Je n'avouerai pas ça en public. C'est la notion de percolation. Alors, la percolation, donc d'après Wikipédia, c'est le moment où une information se propage et où, globalement, il y a un point de bascule. Il y a quelque chose qui change. On passe de cette situation A à cette situation B. Alors, cette théorie, elle a été vachement étudiée sur tout un tas de trucs. Propagation des feux de forêt, les réseaux, les marchés boursiers, comment un crack, par exemple, se passe. Les territoires, la dominance d'une technologie, tout ça. La percolation. Et globalement, ça veut dire quoi? C'est ce moment magique où la transformation, elle prend. Et quand on porte une transformation dans une organisation, c'est ce moment magique qu'on cherche. C'est ce moment magique où on s'est escrimé, on s'est épuisé pendant des mois, voire des années, ça n'a rien fait. Et puis à un moment, il y a un truc qui prend, et puis ça prend, ça se diffuse. C'est magique. Et globalement, moi, je défends l'idée que ce moment, on ne peut pas prévoir. On ne peut pas le prévoir. On ne sait même pas ce qui peut le déclencher. On peut créer, nous, les conditions favorables pour, mais savoir à quel moment ça va prendre, à quel moment ça va basculer, et quelle est la petite étincelle qui va faire que ça bascule, moi, je prétends qu'on ne peut pas le faire. Du coup, une transformation, c'est basculer d'un état A à un état B. Comme je le dis, on ne sait pas ce qui va permettre cette bascule. Et puis, croire qu'on puisse suivre un plan est complètement illusoire, donc un plan de transformation. Moi, j'y crois pas du tout. Et puis, croire qu'on peut échapper à la crise et que tout va bien, on va suivre le plan et machin, tout ça, c'est mentir. Voilà. Du coup, là, dans notre cas, la crise, elle va modifier les stocks de ressources et comment? Et plus que ça, elle va modifier aussi les réseaux de relations au sein de la tribu. C'est-à-dire que globalement, c'est pas que de la ressource qui va changer. C'est tout le système qui va être bousculé. Et c'est la raison pour laquelle ils sont des growth pocket hackers. Ils ont pas fait exprès. Ils font un changement systémique. Et pour que ça marche, il faut mettre de l'énergie. Donc, on va commencer par les sages de la tribu. OK, boomer. Merci. Donc, chez les Cro-Magnons, quand on a une idée, il faut l'aval, l'accord des sages de la tribu. Alors, ce que Grok et Plonk attendent de ces sages de la tribu, c'est un feu vert, l'autorisation d'expérimenter le changement. Alors, c'est un truc qui, bien sûr, n'existe plus du tout de nos jours. Et globalement, être les garants de la stabilité de l'homéostasie dont je parlais, c'est une très bonne façon de refuser toute innovation sous couvert de respect des traditions. Et ça marche dans à peu près toutes les sociétés humaines depuis que l'homme est homme. Alors, les sages de la tribu, en règle générale, ils ont 4 grandes stratégies pour in fine refuser. Parce que c'est quand même quelque part un peu leur objectif. Alors, c'est pas toujours, hein, mais enfin, quand même. Voilà. Semer la peur, death by delay, jouer la confusion et l'attaque personnelle. Alors, semer la peur, extrêmement efficace. Ça consiste non pas à jouer sur la raison, mais à essayer d'aller titiller notre cerveau reptilien. La chasse au mammouth, c'est très dangereux. ça va tuer beaucoup de chasseurs et nous, ça va nous faire perdre des compétences sur ce qui nourrit vraiment notre tribu, la purée de gris au chou. Notre cerveau reptilien, du coup, il dit « Oula, danger, je vais mourir de faim. » La raison, elle est débranchée. Si vous répondez sur le ton de la raison, vous n'allez pas être entendu. Puisqu'on parle à la peur, puisqu'on parle aux émotions les plus basiques, il faut répondre sur les émotions les plus basiques. Et après, vous pourrez parler de raison. Donc, il faut rassurer, il faut parler à la logique, mais aussi les émotions. Je m'engage moi-même à faire la purée de grenouille grise au chou, s'il le faut. Un petit peu de Actor Studios. Deuxième truc, alors ça, l'administration, on est assez fort. On peut pas décider comme ça. Nous devons monter une commission d'enquête afin de déterminer les contours généraux d'un projet, machin tout ça, que chasse au mammouth pluriannuel, machin tout ça. Gagner du temps. L'objectif, il est très clair, c'est qu'à force, Groc et Plonk, ils vont se lasser. Et ça fonctionne très très bien. On a quelques hommes politiques qui font ça pas mal non plus, il faut leur reconnaître ce gros talent. Et la réponse, non, c'est le bon moment. Peut-être qu'on peut partir sur une expérimentation, mais ça ne sert à rien d'attendre. Ça ne sera pas mieux demain. La troisième chose, c'est jouer la confusion, très très efficace aussi, tout mélanger. C'est-à-dire qu'en situation complexe, vous renforcez un petit peu la complexité. Et avec un peu de chance, plus personne ne va rien y comprendre, et du coup, tout le monde dira non. Très, 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 très efficace. Il y a des gens qui sont passés maîtres là-dedans pour expliquer que la chasse au mammouth est très liée à la fréquentation de nos prédateurs tels que le tigre à dents de sabre, ce qui peut jouer sur le surcroît des herbivores qui viendront davantage manger nos choux. C'est donc pas raisonnable. So what? Très, très, très efficace. Autant des Cro-Magnons, bien entendu. Donc, le sujet des mammouths et le sujet des tigres à dents de sable, a priori, n'est pas lié. Du coup, à l'inverse, il faut simplifier. C'est très compliqué de faire simple, mais malheureusement, c'est un passage qui est strictement obligé. Et puis, si tout ça ne marche pas, il reste l'attaque personnelle. Ça, très, très, très efficace aussi, notamment la juniorité. Voilà. Chez les Cro-Magnons, bien entendu. Je ne parle que des Cro-Magnons. Donc, ils ne sont chasseurs que depuis 3 ans. Quelle expérience ont-ils? Quelle légitimité ont-ils pour proposer une transformation alors que, voilà. Peut-être qu'ils sont juniors, mais leur idée est jugée recevable par les chasseurs plus seniors. Ça ne doit pas nous empêcher d'étudier leur plan. Donc, dissocier le message de son porteur, c'est une très bonne stratégie de réponse. Tout ça veut dire quoi? Tout ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie. On va aller rencontrer ces personnes-là. Et je vois trop souvent des gens qui ont des supers idées et qui vont la fleur au fusil rencontrer les sages de la tribu. Je parle bien sûr que des Cro-Magnons. Or, il faut avoir une stratégie. Il faut savoir accueillir les contradicteurs dans la conversation. Il faut surtout les laisser vous attaquer. Notre cerveau reptilien dont on parlait tout à l'heure, il a une tendance naturelle à faire la fuite ou l'attaque. Sauf qu'on n'est plus les reptiles. Et il faut arriver à maîtriser ça. Parce que sinon, on va perdre. On n'a aucune chance. Par contre, il faut savoir répondre de manière claire, simple, précise, avec bon sens. Montrer du respect constamment, ne pas se montrer agressif, fuyant sur la défensive. Parler à l'assemblée entière et pas seulement à la personne qui vous attaque. Extrêmement important. Lui, de toute façon, il est perdu pour vous. Mais vous en fichez. Être clair sur ses forces et ses faiblesses. Il y a un excellent bouquin que je ne saurais trop vous conseiller si vous vous retrouvez dans cette situation qui est de John Kotter pour l'instant, mais celui-là, personne jamais le cite, et c'est bien dommage, parce qu'il présente toutes les stratégies auxquelles vous pouvez avoir à faire face et toutes les stratégies de réponse que vous pouvez mettre en face. Donc, si vous devez un jour défendre un dossier auprès de sages de la tribu, préparez-vous avec ce bouquin, il est absolument excellent. Et puis, encore une fois, ça se prépare et il faut répéter. Donc, plutôt qu'être dans l'attaque, la fuite ou la défensive, Groc et Plonk vont expliquer leur projet de manière factuelle en invitant les contradicteurs dans le débat et en préparant les réponses, 4 attaques types, et ils parleront à toute l'Assemblée. Donc, on ne les traite pas de ringards garants du système existant, mais on va leur exposer calmement notre projet de chasse au mammouth. Le sorcier. Harry Potter. Alors, chez les Cro-Magnons, quand on a une idée, faut la corde, le sorcier de la tribu, parce que c'est lui qui a les ressources. Alors, le sorcier de la tribu, donc c'est lui qui a les ressources, donc les armes, les hommes, l'énergie divine, une bénédiction, tout ce que vous voulez. Donc, il marmonne des incantations un peu bizarres, il a un accès illimité aux ressources. Ça existe encore un petit peu de nos jours. Chez nous, on appelle ça un DAF. Je ne sais pas si ça existe dans vos tribus. Et en règle générale, il parle, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de confiance. La confiance, doit avoir confiance en vous. Comment je sais si je peux vous faire confiance? Il faut que nous gardions la confiance du chef et confiance en les dieux, ça c'est pas un truc d'époque. Sauf que la confiance, c'est compliqué la confiance. Très 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 compliqué. Alors ça, les managers aussi, enfin, certains managers aiment bien beaucoup parler de confiance. Alors la confiance c'est quelque chose qui se construit de manière progressive. Ça se construit de manière progressive, il faut parfois des mois pour la construire, et on peut la perdre extrêmement rapidement parce que c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Et puis la confiance, elle repose sur la transparence et la réciprocité. Moi, j'ai souvent, chez moi, des managers qui viennent me dire, pour me dire comment je peux avoir confiance en mon équipe, et qui ne viennent jamais me voir pour me demander comment mon équipe peut avoir confiance en moi. Et je trouve ça un tout petit peu dommage. Alors, un petit jeu. Après les jeux de mots, les jeux. Qui a dit... Alors ça, on entendait beaucoup à une époque, un peu moins maintenant. La confiance n'exclut pas le contrôle. Est-ce que vous l'avez déjà entendu cette phrase chez vous? Ouais, cool. Alors, qui a dit ça? Bien essayé, mais c'est perdu. C'est lui. Encore mieux. Donc du coup, c'est Staline. Alors moi aussi, je croyais que c'était Lénine, et puis j'ai eu l'occasion de déjeuner avec Isaac Goetz, que certains d'entre vous connaissent peut-être, celui qui a écrit les trucs sur les entreprises libérées. Et lui, il est le russe dans le texte, donc il m'a confirmé que c'était Staline qui avait dit la phrase. On l'attribue à Lénine, mais c'est plutôt Staline. Donc du coup, la confiance n'exclut pas le contrôle. Quand j'ai un manager qui me dit ça, je joue à ce petit jeu, et je lui demande si cette personne est son modèle managérial. En règle générale, ça le calme. Et c'est une phrase, du coup, qui sort de son éventail de phrases managériales. Donc, vous l'amenez chez vous, et vous verrez, c'est très efficace. Donc, oui, la confiance exclut le contrôle. Et du coup, quand on présente ça à un certain nombre de personnes, finalement, le contrôle leur suffit, quoi. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire face aux sorciers de la tribu? Il y a une erreur majeure à ne pas commettre. C'est que nous, notamment agilistes, on a très très envie de lui parler de nos trucs. Et nos trucs, nos trucs d'agilistes, quoi. Voilà. Mais ils s'en cognent. Ils s'en cognent comme de sa première chemise, de nos méthodes, de nos équipes auto-organisées, de nos trucs, machin, pilotage par la valeur. Ce qu'il veut savoir, c'est l'impact. L'impact que ça va avoir pour lui. Alors, j'ai un petit atelier que je joue dans les Agile Tours. Donc, si je me fais réinviter l'an prochain, je le reproposerai, qui s'appelle François Pignon est un coach agile, où justement, on essaye de voir quelle réponse on peut faire face à un directeur général qui demande, c'est quand qu'on est agile? À un directeur financier, à un PMO, à des gens comme ça. Voilà. Très amusant. Et même des agilistes chevronnés, découvrent des trucs assez sympas dans ces moments-là. Donc, on va lui parler de son langage, en fait. On va lui parler de l'impact que ça peut avoir pour lui, des gains qu'il peut espérer. C'est ça qu'il attend. Le reste, ça l'intéresse absolument pas. Et du coup, on va lui proposer des POC pour lui montrer qu'effectivement, ça marche. Et on va lui parler du CCX, du chasseur-cueilleur expérience, l'ancêtre de l'UX. Du coup, oui, on ne va pas lui parler d'équipe auto-organisée, d'agilité, de technique de chat, tout ça, parce qu'il s'en cogne comme sa première chemise, je le répète. Mais on va lui parler de ses préoccupations dans son langage. Et ça, c'est une erreur que je vois très, 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 très souvent dans notre communauté d'agilistes, le fait de se tromper de langage quand on parle à ces personnes. Alors, le Cro-Manager, le chef de la tribu. Donc, chez les Cro-Magnons, quand on a une idée, il faut gérer le chef de la tribu. Alors, je suis chef, donc du coup, j'ai pas de problème là-dessus. Ce qu'on attend de lui, c'est un sponsoring de haut niveau. Voilà. Autrement dit, parce que ça c'est la version politiquement correcte, ce qu'on veut c'est qu'il laisse l'équipe s'auto-organiser. Voilà. Alors, J'ai beaucoup de sympathie, d'amitié pour tous les chefs qui se retrouvent dans situation d'encadrer des équipes agiles et qui, alors certains, ils se disent, je vais créer une équipe auto-organisée, mais je déciderai d'absolument tout à sa place. En faisant semblant de ne pas décider. Ah, ça c'est vachement malin. Et en utilisant quelques mots anglais, ça passe. Voilà, on peut trouver des trucs tranquilles. Alors, j'ai beaucoup de sympathie parce que c'est vrai qu'ils sont, ils ont un rôle qui est difficile. On leur demande de piloter des équipes agile dans un environnement qui, en général, ne l'est pas du tout. Donc, ils sont à la frontière entre les deux mondes. Et c'est un rôle qui n'est pas facile, forcément. Du coup, ils en sont baignés aussi dans tout un tas de trucs qu'ils entendent, surtout s'ils ont des équipes agiles. On va commencer à... Bon, alors, eux, ils ont été formés au taylorisme ou fordisme, hein, le truc commandant de contrôle, machin, tout ça. Ça, ça va, ils comprennent. Après, leurs équipes vont commencer à leur parler de servant de leadership, surtout s'il y a des équipes Scrum. Ah, Scrum est basé sur le servant de leadership. Qu'est-ce que c'est encore, ce truc-là? Il faut que je vous serve le café. Non, pas de café. Ils ont entendu parler de management 3.0 pour les plus avancés d'entre eux. Il y avait un Jürgen Appello qui a fait des trucs assez sympas là-dessus. Des entreprises libérées, dont je parlais avec Isaac Getz. Et ils sont nécessairement perdus. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour le chef de la tribu? Eh bien, on va leur expliquer un concept qui est le gross leadership. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, ce gross leadership? Host leadership. Voilà. Alors, dans le gross leadership, on va définir quatre lieux qui sont basés sur la grotte de Lascaux. La grosse pierre, la grotte principale, le sanctuaire et la salle de l'écho. Alors, la grosse pierre, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Le chef des tribus, il est debout face au reste de la tribu. Il fait le chef. Voilà. Donc, il donne sa vision, il décrit ce qu'il faut faire, machin, tout ça. Il partage son intention, il cadre. Il est en position, posture d'autorité, il est sur la grosse pierre. Les autres, ils sont devant, ils écoutent, sagement. Posture numéro un. Mais il y en a d'autres, il y en a trois autres. On peut être dans la grotte principale. Dans la grotte principale, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec le reste de la tribu. On va être un parmi les autres. Et il y a des moments où il faut être dans la grotte principale, un parmi les autres. Même quand on est chef. Là, c'est le moment où il va construire, il va faire avec les autres, il va chercher des solutions collectives. Un autre lieu, la salle de l'écho. À Lascaux, c'est une salle qui est un petit peu derrière. Et puis, bah, comme son nom l'indique, on entend ce qui se passe dans les salles principales, mais on n'y est pas. C'est le moment où on prend du recul. Le chef, il peut prendre du recul à ce moment-là. Il se met en retrait, il écoute, il observe avec bienveillance ce qui se passe, ce que l'équipe fait. Il n'intervient pas. Pour certains managers, notamment jeunes, c'est compliqué, ça. C'est compliqué de prendre ce recul et de regarder l'équipe faire sans intervenir. Et puis, il y a une autre grotte qui s'appelle le sanctuaire, à Lascaux, tout ça. Bon, c'est le lieu personnel, chef de tribu. Il en a besoin de ce lieu personnel. Il en a besoin pour se ressourcer. Il en a besoin pour préparer la suite. Et puis, voilà, c'est le moment de tirer un bilan. Et donc, il y a ces quatre lieux. Et il y a certains chefs de tribu, je parlais de managers, quelle horreur, je parle bien sûr de chefs de tribu, qui sont toujours sur la grosse pierre. Et il faut arriver à les faire sortir de cette posture. Donc, c'est là qu'un accompagnement est intéressant, pour leur montrer, bah voilà, regarde, quand on est chef de tribu, il y a quatre lieux. T'es où, toi? Majoritairement, t'es où? Alors, il y a certains chefs de tribu qui sont tout le temps sur la grosse pierre, et à l'inverse, on a certains chefs de tribu qui ne sont jamais sur la grosse pierre, qui n'assument pas leur rôle de cro-manager. Donc, en tout cas, là, il y a un vrai accompagnement à monter pour aller vers les autres lieux. Et un bon cro-manager, il est dans les quatre lieux, avec une proportion qui reste à définir, mais en tout cas, il doit être dans les quatre lieux, parce que les quatre lieux ont du sens. Donc, on ne remet pas en cause son autorité. Je ne suis pas de des agilistes qui disent « faut plus de chef ». Non, désolé. Mais par contre, le chef doit jouer son rôle de chef et laisser les équipes jouer leur rôle. Et donc ça se fait en accompagnant sur les quatre. L'équipe, justement, team topologie. Non, bon. Ouais, je vais la changer. Alors, chez les Cro-Magnons, quand on a une idée, bah, on propose aux chasseurs-cueilleurs de s'auto-organiser. Bon, ça, j'aime beaucoup, hein, forcément. En tant qu'agiliste, bah, tout ça, organisation, machin, tout ça, ça me parle. Donc, ce qu'on attend d'eux, bah, c'est qu'ils fassent. Voilà. et qui fassent en auto-organisation. C'est ça qu'on attend des équipes chez les Cro-Magnon. Alors, il y a une théorie très sympa. C'est qu'il suffit de dire à une équipe, tu es auto-organisé, et tout de suite, l'équipe prend son envol avec beaucoup de bienveillance et vole de ses propres ailes. Alors, je vais vous surprendre, mais je commence à avoir fait le tour de pas mal d'endroits. Eh bien, ça ne se passe pas toujours comme ça. Voilà. Parfois, cette théorie se heurte à des réactions que nous pourrions qualifier de mitigées. Ce qui se passe, c'est que vous avez un chef de tribu qui donne de la liberté, et à la surprise générale, l'équipe ne s'en saisit pas. Du coup, qu'est-ce que fait le manager ? C'est qu'il donne encore plus de liberté. Toujours plus de la même chose. Et l'équipe devient de plus en plus passive. C'est-à-dire qu'on assiste au phénomène exactement opposé de celui qui est espéré. Du coup, le Cro-Manager, il regarde ça et dit « Comment ça se fait ?» Okay. Et du coup, il revient à la situation initiale. Bilan de tout ça. Le chef de tribu pense que cette équipe, elle est absolument incapable d'être auto-organisée. Il faut renforcer le commandant de contrôle. Et à l'inverse, l'équipe, elle est complètement confortée dans l'idée que c'était un piège, qu'elle a bien fait de ne pas tomber dedans, et que, globalement, la prochaine fois, elle sera encore plus passive qu'avant. Alors ça aussi, c'est un phénomène qu'on rencontre très, 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 très souvent, notamment dans les grosses organisations, les administrations en particulier, mais les banques, les machins, tout ça, les assurances, tout ça, on a le même phénomène, je ne sais pas, les constructeurs de voitures, on a le même phénomène qui s'installe, et c'est extrêmement frappant, et je vois des jeunes chefs de tribu complètement perdus qui viennent me voir et disent « Mais comment ça se fait ?» Alors ça a été décrit par quelqu'un qui s'appelle Martin Seligman, et c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. C'est-à-dire que dans une organisation, si on a passé toute sa vie professionnelle à être dans un environnement où on ne peut rien faire sans se faire taper sur les doigts d'une façon ou d'une autre, ou plutôt la prise d'initiative est punie plutôt qu'encouragée, eh bien, il ne suffit pas de dire que maintenant c'est autorisé pour que ça marche. Parce qu'il y a tout un syndrome qui s'est installé et que pour échapper à ce contexte, eh bien, c'est extrêmement difficile. Et Martin Seligman a montré que même si on supprime la cause, ça ne suffit pas pour que les gens se sentent autorisés à faire les choses. J'aime beaucoup ce livre qui me parle à l'administration. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Il faut savoir, déjà, il faut conforter l'expertise technique. C'est extrêmement important. Les équipes, elles ont une expertise technique et il faut les conforter là-dedans. Leur dire que c'est vraiment eux l'expert. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir les accompagner pour intégrer les nouvelles techniques. Et après, leur montrer que ces techniques, elles peuvent évoluer. Ça, c'est la deuxième étape. Et enfin, valoriser. Il faut relire David Marquet. Ça fait partie des livres fondamentaux, je pense, si on travaille sur des dynamiques d'équipe. Alors, le premier livre qu'avait écrit David Marquet, c'est « Turn the Ship Around ». Il était commandant d'un sous-marin nucléaire des Américains. Et il a failli planter son bateau parce que ses équipes savaient que c'était qu'ils allaient dans le mur, mais ne lui ont pas dit. C'est le chef, respect du chef. Donc ça, c'est le premier bouquin qu'il a écrit. Deuxième bouquin qu'il a écrit est encore plus intéressant. Celui-là, je crois qu'il a pas été. Le premier a été traduit, le deuxième pas encore. Leadership is language. Et globalement, la façon dont on dit les choses, dont le chef de tribu dit les choses, est extrêmement puissant sur la façon dont les équipes vont réagir. Donc, il faut changer sa façon de dire les choses progressivement, parce que sinon, on ne fera pas changer les gens. Et prétendre dire à une équipe « Vous êtes autonome », alors que tout le reste de la façon de communiquer, on est toujours sur une logique descendante, commandant contre tout ça, c'est pas crédible. Donc, il faut changer sa façon de dire les choses. Avec une boucle, je vous autorise à, et du coup, je vous protège sur cette autorisation. Et ça, c'est fondamental. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour les chasseurs-cueilleurs de la tribu ? Là, du coup, justement, on va leur parler d'autorisation. On va leur parler de confiance, celle qui n'implique pas le contrôle. On va souligner et encourager leur expertise, encore une fois. Et puis, on va les accompagner progressivement. Et le point important, il est sur le progressivement. Dans son bouquin, David Marquet, il décrit 9 étapes du command and control pur. Encore une fois, il était chef d'un sous-marin nucléaire, donc command and control, voilà. De command and control pur jusqu'à vraiment une équipe auto-organisée. Il décrit 9 étapes pour rendre l'équipe de plus en plus autonome. Donc ça ne se fait pas en un jour, ça se fait vraiment par étapes. Et puis, il va encourager ses équipes à collaborer, livrer, réfléchir et s'améliorer. Alors peut-être que ces 4 verres disent quelque chose à quelqu'un. C'est le modèle Heart of Agile, défini par Alistair Coburn, qui est un des rédacteurs du Manifeste Agile, et qui résume l'agilité sur ces 4 verbes. L'agilité, c'est ça, et c'est que ça. J'avais dit que je ne parlerais pas d'agilité, ben je l'ai fait. Désolé. Donc, on n'impose pas la liberté et l'auto-organisation, parce que ça ne marche pas. On rassure, on construit avec, et progressivement, on obtient une équipe auto-organisée. Sauf si vous êtes dans une start-up, auquel cas, ça, vous l'oubliez. Mais si vous n'êtes pas dans une start-up, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Du coup, c'est quoi une transfo, en fait ? Très joli schéma, j'aime tout ça. Une transfo, ça commence par des événements, ce qui se passe, des trucs qu'on voit, on n'a pas envie que ça se reproduise. Du coup, ce qu'on peut faire, nous, face à ça, c'est réagir. À force, on voit se dessiner des patterns, des tendances, des trucs qui se répètent. Le fait de constater ces patterns, ces tendances, ça permet d'anticiper. C'est mieux. On a fait un pas d'heureux. On a fait un pas en arrière. C'est toujours pas ça transformer. Une fois qu'on a ces patterns, ces tendances, qu'on est sûr là-dessus, on se dit, on pourrait designer autre chose. Parce que du coup, ces patterns, ces tendances, elles reposent sur une organisation, sur une hiérarchie, sur une pyramide de ce que vous voulez, sur des silos, et on va essayer d'éclater ces silos. Et en règle générale, les transformations qu'on nous vend, elles sont à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est pas suffisant. Parce que si une organisation, elle a été construite de cette façon-là, c'est qu'il y a un certain nombre de croyances qui sont dessous, de valeurs, sous ce que vous voulez, des choses qu'on ne dit pas. Qu'on ne dit pas forcément facilement. Et c'est ces modèles mentaux, finalement, qu'il va falloir toucher pour vraiment transformer. Et ça, dans un plan de transformation, on n'en parle jamais. Alors, chouette, il y a un point où je ne suis pas d'accord avec Jürgen Appello. Jürgen dit qu'il suffit de reproduire des actions pour acquérir une habitude et que ces habitudes changent les modèles mentaux. Je n'y crois absolument pas. Vous prenez une équipe, vous lui faites faire du scrum, enfin des rituels scrum pendant 10 ans, il ne deviendra pas pour autant une équipe agile. Par contre, nous sommes des animaux hypersociaux. Ce qui change les modèles mentaux, c'est notre capacité à échanger oralement ensemble. C'est le dialogue. Il n'y a que par le dialogue qu'on fait bouger les modèles mentaux, les croyances. Et globalement, c'est ça qu'il faut faire. Et être une tribu, être une organisation, c'est finalement se raconter ensemble une histoire commune. C'est ça le truc. Et du coup, la transformation, c'est que changer cette histoire commune, finalement. Et donc, ça va se faire en changeant nos façons d'interagir. S'il y a toujours, si vous faites une transformation et que au sein, par exemple, entre des métiers et des informaticiens, et que au sein de ce truc-là, il y a toujours les « eux » et les « nous », vous avez beau changer, redesigner, faire des équipes bidules, s'il y a les « eux » et les « nous » toujours dans les têtes, votre transfo, elle ne sert à rien. Si vous ne changez pas ce « eux » et « nous » en « nous », c'est foutu. Vous allez badigeonner de peinture le système précédent. Donc du coup, on va ouvrir des espaces de dialogue égalitaire. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche dialogue, dialogique, tout ça. Donc on crée des espaces de dialogue. Et nous, on a à l'INSEE, pour le coup, on fait beaucoup ça pour transformer les façons d'interagir entre les gens, les humains et leurs interactions, plutôt que les processus et les outils. Donc, moralité, pour convaincre l'équipe de ne plus manger de purée de grenouilles grises de choux et d'aller chasser le mammouth, ils ont fait une open growth technologie. Alors, les leçons de Grok et Plok. Je vous ai fait un petit poème. Finalement. Au conseil des sages, bien préparé, tu partiras. Ton projet, factuellement, tu exposeras. Aux quatre attaques basiques, tu t'attendras. Jamais dans la colère, la fuite ou la défense, tu ne seras. Aux sorciers, son langage, tu parleras. Impact et gain, tu expliciteras. La confiance, progressive et réciproque, tu bâtiras. Les ressources, de manière raisonnable, tu demanderas. Au chef, sa posture explicite, tu rendras. Pas toujours sur la grosse pierre, il ne se tiendra. Parfois dans son sanctuaire, tu y retourneras, et souvent dans les grottes, on le trouvera. Tes chasseurs-cueilleurs, tu observeras. L'impuissance acquise, tu détecteras. Doucement vers l'autonomie, tu iras. Vers l'auto-organisation, tu accompagneras. La seule façon de faire une transformation systémique, c'est de changer l'histoire que nous nous racontons. Et ça passe par le dialogue, comme l'agilité, qui est foncièrement un art oral.